Le domaine de la sécurité, les métiers de la sécurité changent. Vous avez dit que le gardiennage, la surveillance humaine n'avait plus rien à voir avec le métier actuel. Quel est ce changement ?
Le changement, si vous voulez, c'est qu'avant, tout reposait sur des hommes et des femmes qui étaient chargés de faire la sécurité, ceux qui faisaient les rondes la nuit, on le voyait, les rondes dans les entreprises, ceux qui assuraient les contrôles à l'entrée, c'était ça en définitive la sécurité. Bon, et puis les spécialistes incendies qui surveillaient pour qu'il n'y ait pas d'incendie dans les sites ou les entreprises. Bon, là où ça a totalement changé, c'est que l'arrivée des outils, je dirais, du cyberespace, on fait que maintenant, on utilise des quantités d'outils électroniques de différents types qui vont remplacer les hommes et les femmes d'une manière beaucoup plus efficace. Si vous voulez, par exemple, pour donner un exemple, quand vous êtes à le gardiennage, le gardien qui, toutes les deux heures, faisait un tour de l'usine en tournant des clés. Bon. Aujourd'hui, on a des petits robots qui font des parcours aléatoires, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer autrement, et toujours avec des circuits différents, et qui, eux, vont entendre, écouter, ils vont renifler, enfin, si vous voulez, ils vont être capables d'identifier des bruits, des couleurs, des odeurs, bon, et instantanément donner une alerte. Et s'il y a un voyou, le voyou, lui, il ne peut pas donner un coup de matraque sur le gardien, parce que le petit engin qui se promène, il va vite, il est tout petit. Donc, on change complètement les règles du jeu. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Mais on a ça dans quantité de domaines différents.
Alors des outils nouveaux, des gens formés en conséquence ?
Ben oui, alors justement, la difficulté, si vous voulez, c'est que quand on faisait faire du gardiennage, on prenait des gens qui traditionnellement étaient très peu qualifiés. Bon, on a quand même amélioré ça en faisant ce qu'on appelle les certificats de qualification professionnelle, par lesquels les gens apprennent à faire leur travail le mieux possible. Mais c'était un travail simple. À partir du moment où il faut gérer des engins, regarder des écrans, appuyer sur des boutons, donc faire des réglages, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ça exige des gens à qui on doit donner une formation plus approfondie.
Vous vous adressez aux entreprises. Les entreprises, elles sont prêtes à payer pour leur sécurité et à payer d'autant plus cher que le personnel sera formé, que les outils seront numériques.
Alors, les entreprises, elles ne payent que sous la contrainte. Je dirais que c'est clair, hein, il faut être honnête. C'est-à-dire que tant qu'elles ne pensent pas qu'il y a un risque réel pour elles, elles n'investissent pas là-dedans. Donc elles essaient de réduire les dépenses au maximum. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la montée du sentiment d'insécurité en France, mais c'est valable dans les rues, c'est valable dans les villes, c'est valable aussi dans les entreprises. Donc la montée du sentiment d'insécurité, la peur du terrorisme qui est quand même constante et qui aussi fait réfléchir tout le monde, il y a progressivement une évolution au niveau des investissements, même si à notre avis, pour nous les spécialistes, ce n'est pas suffisant, mais il y a une évolution positive au niveau des investissements et il y a aussi une prise de conscience qu'il faut s'intéresser à la sécurité, chose qui n'était pas le cas avant.
Vous alertez justement les entreprises parce qu'il y a de nouveaux risques, il y a des failles maintenant qui peuvent vraiment faire fermer des sociétés, des entreprises.
Absolument, parce que vous avez, surtout avec dans les domaines de la cybersécurité, aujourd'hui vous avez des risques nouveaux qui arrivent à travers d'une part les pillages, les détournements d'informations, les pillages de données, bon ça c'est une chose, qui peuvent favoriser des concurrents sous une forme ou sous une autre. Mais il y a aussi tout le côté purement criminel que l'on voit apparaître avec les escroqueries en utilisant des systèmes informatiques, avec également les demandes de rançon, c'est-à-dire le piégeage de vos circuits informatiques. Par exemple, on commence à voir apparaître ça en France. C'est vous, le matin, vous arrivez dans votre entreprise et puis il n'y a plus un ordinateur qui marche, donc plus rien ne fonctionne. Bon, et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on vous prévient, vous avez un message qui arrive et qui dit, ben voilà, votre réseau a été piégé, si vous ne payez pas tant d'argent dans tant de minutes ou tant d'heures, eh bien, c'est fini, vous aurez tout perdu. Et les industriels, ben, quand ils se retrouvent avec leur système bloqué, ils payent la rançon, car c'est une véritable rançon.
Alors enfin, dernière question, la loi autorise maintenant les agents privés armés. Oui. Vous dites oui, mais soyons prudents.
Oui, parce que si vous voulez, la France n'est pas le Far West, hein, d'abord. Et d'autre part, je crois qu'il faut bien voir les choses en face. Les services de l'État ont pour mission de protéger les citoyens, y compris de manière armée. Hein, ça fait partie du rôle régalien. Bon, il se trouve que dans ce qu'on appelle les gardes statiques, c'est-à-dire tout ce qui est la garde d'immeubles, de personnalités et autres, et qui implique de bloquer des gens des journées entières en se relayant pour assurer la sécurité de quelqu'un. Est-ce qu'on doit employer des gens qui sont capables de le faire ou est-ce qu'on doit employer des gens qui sont des professionnels très très entraînés ? Et la réponse est un professionnel surentraîné, par exemple je prends quelqu'un du RAID ou du GIGN ou quelqu'un chez les militaires du REP, hein, eh ben, ces gens-là, les utiliser pour faire des gardes statiques, c'est un gâchis affreux si vous voulez. Parce qu'ils ont une autre qualification, ils ont un entraînement et on leur fait perdre tout ça pour une garde statique. Et on a vu que c'est beaucoup moins cher, c'est 25% moins cher de faire assurer ce type de garde par des gardiens armés privés. C'est énorme, l'économie est très importante. Donc l'idée de base qui a prévalu aux gardes armées, c'est de dire on a en France de l'ordre de 4 000-5 000 gardes statiques permanentes, remplaçons ces gens-là, qui sont faits actuellement par des fonctionnaires de police, de la gendarmerie ou de l'armée, remplaçons-les par des gardes armées privées, ça fera faire des économies à l'État et ça permettra de redéployer ce personnel qu'on n'aura plus à utiliser pour ça, sur des missions qui sont plus en ligne avec ce qu'ils savent faire. D'un autre côté, au niveau des entreprises, dans les entreprises de défense, ou ce qu'on appelle nous d'importance vitale, qui sont donc les entreprises les plus exposées à des risques extérieurs, envisager de mettre dans certaines conditions des gardes armées, c'est une bonne idée. Mais il ne faut pas pour autant vouloir mettre des gardes armées partout. Parce que pour garder l'entrée d'un supermarché ou d'un salon de coiffure, on n'a pas besoin de garde armée. Le problème, c'est donc de bien voir là où c'est véritablement important pour la sécurité de tout le monde et là où ce n'est pas véritablement important, où là, il y a d'autres moyens qui peuvent être aussi efficaces. Nous avons évoqué récemment, et ce matin encore, on en parlait, par exemple, quand vous voyez l'histoire de Charlie Hebdo, bon, faut-il chez Charlie Hebdo mettre des gardes armés ou mettre à la porte un sas d'entrée en verre qui fait qu'on peut rentrer une personne par une personne et vous ne pouvez pas franchir le deuxième sas sans qu'on ait appuyé sur un bouton. Ben, vous apercevez qu'à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'avoir un garde armé.